Salut, c'est Odile.
Salut, c'est Olivier.
Salut, c'est Nathalie.
À la bonne heure, le mag Région Sud-Est.
Des musiques, des chroniques, des invités.
De midi 10 à 13h.
À la bonne heure.
Quoi ?
À la bonne heure.
Sur Fréquence Mistral, bien sûr.
Bienvenue au magazine régional Sud-Est de Fréquence Mistral.
Il est midi 20 sur Fréquence Mistral et nous sommes en compagnie d'Alain Faucoux, écrivain, pour nous parler de son dernier livre, Le Gabelou des Colombines, publié aux éditions du Maupassant. Alors nous venons d'écouter une musique de Barbara Pravi, voilà, que vous avez choisi, Alain Faucoux. Alors pourquoi ce choix-là ?
Eh bien, elle dit voilà qui je suis, regardez-moi, écoutez-moi, j'écris... J'ai trouvé que ça me correspondait un petit peu, mis à part le genre, parce que c'est une jolie fille, et moi je suis un homme déjà d'un âge bien avancé.
Mais qui écrit, effectivement, et vous êtes ici pour parler de vous, donc comme vous le dites, c'est une belle introduction. Alors Alain, vous écrivez depuis que vous êtes à la retraite, vous en êtes à votre 6e livre.
Pour être très franc, j'écris depuis l'âge de 15 ans. Mais les écrits de cette époque-là ne méritent pas du tout d'être... Je les ai relus pour le plaisir et pour la critique, l'autocritique.
Et
puis j'ai écrit... Oh ben non, c'était puéril. Mais il y a cette envie d'écrire. D'ailleurs, j'ai toujours eu des très bonnes notes à l'école en français, en rédaction. J'ai toujours aimé le bon texte, la bonne écriture, l'orthographe, etc., la syntaxe. Mmh. Et j'ai... Dans ma vie professionnelle, trouver à une époque le temps d'écrire le début d'un roman. Et puis je me suis découragé. C'est pas de moi ça, mais je me suis découragé parce que je me suis dit tu seras jamais édité. Donc tu perds du temps, il faut aller travailler, il y a les traites à honorer. Bon. Et je l'avais abandonné. Et lorsque j'ai pu prendre ma retraite tardivement, parce que j'avais 71 ans déjà, j'ai repris ce livre, je l'ai complété, terminé. Et les retours fantastiques que j'ai eus des lecteurs m'ont donné envie de continuer. J'ai donc continué par une saga familiale qui se passe en Auvergne au XVIIIe siècle en 3 volumes. Mm-hmm. Puis un roman qui se passe au IIe siècle de notre ère sur la construction d'un aqueduc romain. Donc gérer le problème entre l'esclave gaulois, tailleur de pierre, et la fille d'un praticien romain. Mariage impossible, quoique... Et je viens présenter aujourd'hui le gabelou des Colombines. Le gabelou, c'est le douanier de la gabelle qui est rétabli dans la région en 1674.
Et nous allons revenir plus précisément sur ce livre-là. Mais avant cela, je reviens un peu sur votre parcours, puisque donc, vous écrivez depuis très longtemps, comme vous nous disiez. Mais vous avez eu une carrière commerciale et après, vous avez quand même ouvert une maison d'édition. Donc vous étiez déjà concerné par l'écriture.
J'ai toujours aimé le livre, c'est vrai. Donc la maison d'édition, ça a été une opportunité pour publier mon premier livre photo qui se situait dans le parc naturel régional du Pilat entre Saint-Étienne et Lyon. D'autres livres photos ont continué, ont perduré. Et puis j'ai eu quelques auteurs qui m'ont demandé si je voulais pas les éditer, ce que j'ai fait. Je les ai pas seulement édités, je les ai vendus, présentés aux libraires. Jusqu'à ce que j'ai un petit problème de santé m'oblige à me séparer de ma maison d'édition. C'était en 2015. Et je me suis retrouvé avec du temps libre. Et c'est là que je me suis mis à écrire mes propres romans. Non plus des livres photos, des livres régionalistes, mais des romans complets. D'ailleurs, je me présente plutôt comme romancier que comme écrivain.
Comme romancier.
Je trouve que c'est plus modeste.
Et quelle différence faites-vous ?
Eh bien, j'écris, je raconte des histoires. J'aime lire des histoires, donc j'ai toujours envie, moi aussi, d'en raconter. Je dis, cette histoire que je viens de lire, elle était bien. Si je pouvais trouver un sujet aussi passionnant, aussi original, j'aimerais l'écrire. Mmh. Et puis, dès que je commence, ça file tout de suite.
Il m'a semblé voir un lien quand même entre la publication de vos livres de photographie et de vos livres, vos romans, qui est l'histoire. Puisque déjà vous écriviez les textes de vos photographies et des textes sur l'histoire, le contexte, et vos livres se situent toujours aussi dans un certain contexte historique, si je ne me trompe pas.
Absolument, je suis passionné par la vie des gens autrefois. Ce n'est pas de la nostalgie, c'est vraiment de la curiosité intellectuelle, quoi, simplement. La saga familiale en 3 volumes que j'ai écrite qui se passe au 19e siècle, en livre radois, c'est-à-dire en Auvergne. J'ai eu plaisir à découvrir des tas de régions, des tas de façons de vivre, des façons de cultiver la terre. Un des personnages va traverser l'Atlantique sur un trois-mâts. Je me suis inspiré de toute la documentation que je trouvais sur l'Hermione. On trouve ça sur Internet sans difficulté. Apprendre ce qu'était la frégate à cette époque et apprendre ce qui était traverser l'Atlantique, ça me passionne. Donc j'essaie de transmettre cette passion à mes lecteurs. Ça marche relativement bien puisque tous me disent qu'ils ont adoré.
Comment vous avez des retours de vos lecteurs ?
Alors, beaucoup de mes lecteurs sont des gens que je connais. D'autres écrivent des mails ou viennent me voir sur les stands lorsque j'ai fait une fête du livre. J'ai lu votre premier livre, j'ai beaucoup aimé ceci, cela. Ça fait chaud au cœur, ça encourage à continuer. Parce que c'est quand même du boulot d'écrire un roman.
Et justement, on va en parler de votre travail d'écriture, peut-être en prenant l'exemple de ce dernier livre. Est-ce que ce dernier livre, le travail que vous avez fait d'écriture pour ce dernier livre correspond à celui des précédents livres ou est-ce qu'il y a toujours une particularité ?
Alors, c'est toujours la même démarche, c'est-à-dire acheter des livres qui parlent du sujet. Là, dans le cas présent, c'était la vie au XVIIe siècle, les événements historiques qui s'y sont passés. La région, comment on peut pas écrire qu'on monte au Lautaret avec une charrette au galop parce qu'il y avait pas de route. Donc il faut se documenter sur toutes ces particularités régionales, mais la démarche elle-même est la même. Beaucoup de recherches sur Internet, découvrir des auteurs qui ont écrit sur des sujets. Par exemple, j'ai lu toute la vie de Louis XIV, j'ai lu toute la vie de D'Artagnan, parce qu'il apparaît dans le livre. J'ai lu le livre, bien évidemment, de Jacqueline Routier. On ne peut pas éviter ça. Les Briançonnais connaissent ce livre sur l'histoire de Briançon. De Nadine Vivier également, sur le Briançon rural. J'ai beaucoup de livres. Des vrais livres, quoi, des livres en papier,
oui.
Et également de la recherche sur Internet que j'imprime et que je fais un classeur de documents. La difficulté, c'est ensuite de collecter tout ça et de le mettre dans l'ordre, de pas se prendre les pieds dans l'abondance de documentation. Et puis surtout de ne pas lasser.
Parce que, à quel moment vous estimez que vous en savez assez ? Pour écrire ensuite votre histoire.
En sait-on assez ?
Justement, je vous pose la question.
Je ne crois pas, non. Je crois qu'il y a toujours... C'est d'ailleurs très, très difficile et très douloureux pour un écrivain, quand le livre est terminé, de découvrir une information qu'il n'avait pas. Et ça arrive à tout le monde. Ça. J'ai des copains écrivains, et c'est pareil, ils ont envie de brûler le livre et de le réécrire.
Ce qui n'est pas vraiment possible.
Non.
Et donc, pour ce livre dans le Briançonnais, vous avez fait toutes ces recherches. Ça vous a pris combien de temps ?
Je considère que sur un livre qui va me mettre une bonne année, 5 trimestres, disons, d'écriture, enfin de conception, il y a au moins 3 trimestres en tout de documentation. Mais ce n'est pas à la queue leu-leu. C'est-à-dire, je commence la documentation, je commence à écrire mon synopsis, je reviens sur la documentation, j'établis une chronologie des événements. Et puis je commence à écrire et puis j'ai un but à un moment parce que j'ai dépassé la période que je connaissais bien. Donc je repars en documentation. C'est un aller-retour permanent entre la documentation et l'écriture.
D'accord, ce n'est pas toute la recherche et ensuite la partie écriture.
Non, tout à fait.
Et donc ce livre-là se situe à quelle époque, dans quel contexte historique ?
Alors, il se situe à la deuxième moitié du XVIIe siècle. Le livre commence en 1666 avec le passage de D'Artagnan qui escorte avec ses mousquetaires le surintendant Fouquet qu'il a arrêté sur ordre de Louis XIV. Et j'ai un de mes personnages qui cherche du travail pendant l'hiver parce que la ferme ne le nourrit pas l'hiver. Il va se faire embaucher pour un contrat à durée déterminée, on va dire, auprès des mousquetaires pour accompagner D'Artagnan et le surintendant Fouquet jusqu'à Pignerolles, qui s'appelle Pignerolo aujourd'hui, et qui était une possession française à l'époque. Et parce que le surintendant va y être enfermé, il va y finir sa vie.
Est-ce que vous vous êtes inspiré de personnages réels ?
Alors, pas pour mes personnages principaux, les personnages réels sont les personnages historiques. Je parle de D'Artagnan, je parlerai plus loin de Vauban. Je parle de pas beaucoup de personnages réels, je parle de faits historiques. Et mes personnages, eux, sont complètement fictifs. C'est une famille de Cervérins qui ont au départ une ferme un peu modeste, je dirais même pauvre, puisqu'ils sont obligés de partir l'hiver en migration temporaire. Certains partent pour peigneur de chanvre, il y en a d'autres qui partent pour faire berger, il y en a qui partent pour être instituteurs parce qu'ils étaient très instruits, ils avaient le temps l'hiver d'apprendre à lire, écrire et compter. Dans ce village, il y avait un instituteur qui avait trois plumes à son chapeau, une pour prouver qu'il savait capable d'enseigner l'écriture, une pour prouver qu'il était capable d'enseigner le calcul, et la troisième parce qu'il était capable d'enseigner le latin. Mais ils n'avaient pas tous trois plumes. Il y en a qui n'en avaient que deux ou qu'une.
Et c'était une façon de montrer son savoir.
Alors ça, c'est général sur la France entière à cette époque.
D'accord.
Ça n'est pas particulier à Briançon ou le Briançonnais.
D'accord. Et donc, en parlant justement du Briançonnais et puis de Cervières, c'est un territoire que vous connaissez, vous, personnellement. Vous avez une relation particulière à ce territoire.
Alors, c'est un territoire que j'aime, pour commencer. J'aime les paysages. J'aime le climat, c'est un peu banal, c'est un petit peu beauf, mais ce que j'aime m'y ressourcer. J'habite dans une vallée industrieuse, dans le département de la Loire, c'est pas trop loin, donc on peut venir souvent. J'y viens depuis l'âge de 17 ans, en 1961, et je viens de trahir mon âge. Et j'ai parcouru tous les sentiers, j'ai découvert tous les cols, tous les lacs, Et puis petit à petit, à l'époque, on connaissait pas tellement les gens de Cervières parce que l'été, on venait que l'été. L'été, ils étaient dans les alpages, ils travaillaient dur, ils descendaient le foin à la nuit tombée. Nous, on était déjà rentrés à la maison. Jusqu'à ce qu'on fasse un peu connaissance avec des loueurs, des gens qui nous louaient un appartement et qui faisaient des foins. Et on est allé les aider au foin. J'ai commencé à comprendre quelle était leur vie à ce moment-là. Et puis au fil des années, petit à petit, on a loué, quand j'étais adulte et marié et père de famille, on a loué un appartement quoi, pour le mois d'août. Et puis plus récemment, on est propriétaire d'un petit appartement où on vient très souvent. Donc c'est une région que j'aime et que je fréquente beaucoup.
Et vous ne vous en lassez pas ?
Ah non, pas du tout. J'y habiterai peut-être pas quand même, parce que maintenant, à l'âge que j'atteins, les hivers sont un peu difficiles ici. Il y a la neige, on veut partir, il faut dégager la neige de la voiture. C'est un peu pénible.
C'est sûr que ça demande une certaine routine très particulière à ce type de territoire.
Exact.
Alors, vous aimez donc ce territoire, mais vous aimez également Schubert. Alain,
ah oui.
Vous avez choisi une musique pour la pause musicale. Quel est votre lien avec cette musique ?
Le lien, il est émotionnel. Les trios nocturnaux est une musique qui prend au cœur directement. J'ai eu m'arrive d'avoir les larmes aux yeux en écoutant cette musique. Et vous m'avez demandé des musiques que j'aimais. Ça en fait partie. Il y en a d'autres. Hein. J'ai une passion également pour Mozart, pour les grands classiques, les grands romantiques.
Et la musique classique, vous me disiez.
Oui, j'écoute toujours, je suis toujours connecté sur Radio Classique. Pardon, mais là où je...
Et vous écoutez de la musique quand vous écrivez ?
Alors, pas quand j'écris. Quand je recherche la documentation, que je lis des longs articles de Wikipédia, par exemple, il m'arrive de mettre de la musique. Mais il m'arrive aussi de mettre des vinyles. J'ai gardé tous mes vieux vinyles.
Et Schubert en fait partie.
Ah oui, oui.
Alors on écoute ça tout de suite.
Thank you.
Dans le magazine aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'Alain Faucoux, écrivain, pour nous parler de son livre « Le gabelou des colombines ». Donc, nous avons déjà un petit peu évoqué la thématique, votre travail d'écriture. Nous parlions de la musique, Schubert, que vous avez choisi et que vous appréciez particulièrement, la musique classique. Alors, ce livre, donc, qui se déroule dans le territoire du Briançonnais, que vous connaissez parce que vous y venez régulièrement, vous avez... Donc, travailler, on le disait, sur toute cette recherche historique. Qu'est-ce qui vous a plu, vous, dans cette période et qui vous a amené à écrire sur cette période-là en particulier ?
Alors, plus que de dire que ça m'a plu, ça m'a intrigué, ça m'a interpellé. Parce que, excusez-moi, on a parfois l'habitude, dans notre 21e siècle, de se plaindre d'un tas de petites misères. Il faut voir comment les gens vivaient à cette époque. Ils vivaient tous dans la même pièce avec les animaux. On ne se chauffait pas. On mangeait presque toujours les mêmes choses parce qu'on vivait en autarcie. Les travaux pendant la saison d'été étaient très pénibles, avec le foin à aller faucher à la faux à la main. Parfois les femmes, même avec une faucille, ramasser ce foin rassemblé dans des filets qu'on appelait des trousses, mettre ça sur le dos des mulets, parfois sur le dos d'une charrette pour les descendre à la nuit, remonter dormir dans les alpages. C'est une vie de gueux, quoi. C'est terrible. Donc je suis un peu interpellé, et puis je pense que ça explique peut-être un peu le climat est rude, les gens l'étaient aussi.
Et ça vous intriguait d'écrire des personnages qui avaient ce caractère, cette personnalité-là ?
Oui, j'ai des amis, même aujourd'hui, au temps actuel, qui ont quelque part en eux cette volonté, cet acharnement à vivre, à lutter contre les éléments. Ils ont dû lutter également contre les armées, contre les troupes qui devaient faire l'aide sur le village, pour faire des réquisitions, parfois bien pire, les femmes en ont subi les conséquences dramatiques. Donc ça crée toute une base émotionnelle qui se reconduit de génération en génération. Et ce qui fait que les villages, je ne connais pas les autres, mais Servières est un village qui, quand je l'ai connu, était assez refermé sur lui-même. Je me souviens par exemple que l'épicière à l'époque où j'étais enfant, elle avait un âge déjà bien avancé, elle était personne presque âgée, n'était jamais descendue à Briançon.
Ah oui.
Il y a 10 kilomètres.
Et vous pensez que le fait d'avoir vu ça dans ce village, de l'avoir un petit peu ressenti enfant, a fait que ça vous intéressait là, de replonger là-dedans et d'essayer de le vivre à travers l'écriture ?
Oui, un peu pour les réhabiliter en quelque sorte. Ce sont des gens qui ont beaucoup souffert dans le fil des siècles, jusqu'à il n'y a pas longtemps, hein, parce qu'il y a quand même eu encore le lot de victimes des guerres du XXe siècle. J'ai eu envie aussi de partager. Écrire, c'est vouloir partager. Donc, ce que l'on sait, ce que l'on ressent, on a envie de le faire ressentir aux gens. D'après les retours que j'en ai, je pense ne pas trop planter. Quoi.
Et comment est-ce qu'on arrive à vivre ce que peuvent traverser ces personnages ?
Par l'imagination. Vous l'avez dit tout à l'heure, photographe, mais un peu vidéaste aussi. Donc j'ai toujours dans la tête les images des lieux et des gens que je raconte. Je vais faire les foins dans ma tête avec eux quand je l'écris. On m'a dit, et je le crois vraiment que c'est vrai, que j'écris un scénario pratiquement. C'est quelque chose qui pourrait être mis en image.
Ça vous plairait ?
Oh, bien sûr. Évidemment, j'ai d'ailleurs tenté le coup d'écrire quelques scénarios, entre autres pour Alex Hugo, et il n'a pas été retenu.
Ah, est-ce que ça vous plairait que vos livres soient mis en image ?
Bien sûr, mais vous posez la question à tous les écrivains, je pense qu'ils vous répondront tous oui.
Ah, nous tenterons ça alors, je poserai la question pour les prochains. Et donc vous, est-ce que vous pouvez nous parler de vos personnages ? Est-ce que vous...
Alors sans spoiler, sans dévoiler l'intrigue vraiment, il s'agit de l'histoire, basiquement c'est l'histoire de la famille Roman. Le père Hippolyte, il y a eu le grand-père avant, Émilien, qui est décédé au début, quand le livre commence il n'est plus là, mais il a laissé des traces des meubles qu'il a fabriqués, entre autres des bancs de l'église. Il y a donc le premier personnage qui apparaît vivant, c'est Hippolyte. Hippolyte et sa femme Luce. Ils tiennent cette petite ferme qui est pauvre. Et donc l'hiver, il faut qu'ils partent. Donc les enfants, dès qu'ils arrivent à un âge suffisant, partent aussi, alors soit dans le Piémont pour aller garder les moutons, pour aller faire des vendanges éventuellement. Ça, c'est un peu plus tôt. Et puis, il y a des peigneurs de chanvre. On cultivait le chanvre pour tisser les draps. Et il y a une technique qui consiste à le peigner. Donc les peigneurs de chanvre, ça consiste à le... Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est un petit peu long, mais avec une machine qui s'appelle la broie, en Auvergne ça s'appelait comme ça, qui permet de déchirer les fibres du chanvre pour en faire du fil.
Et ils avaient cette machine dans le village ?
Eh ben, ce n'est pas des machines, c'est comme des appareils pour carder la laine des matelas. Vous savez, c'est des... comme deux gros fer à repasser, mais avec des pointes.
D'accord.
Et donc, ils frottaient ça. Et ils partaient avec leur bois attaché autour du cou. Quand je vous dis que c'est des vies incroyables, ça valait le coup de le raconter. Donc, ensuite, quand Hippolyte revient de cette mission avec D'Artagnan, qui débute le livre, il retrouve son épouse. Et là, il y a un petit rejeton qui arrivera 9 mois plus tard et qui s'appelle Pancras. Et c'est lui le gabelou des Colombines. C'est ce petit Pancras qui va grandir, qui est comment dire, influencé par... C'est le petit dernier, donc c'est le préféré de sa maman. Mais il va être influencé par les épisodes militaires de son père. Donc il va partir à l'armée. Il n'aura pas bien le choix, d'ailleurs, parce qu'à l'époque, il y avait un tirage au sort. Et il part dans la milice briançonnaise, qui est là pour défendre la ville contre les éventuelles invasions des Savoyards particulièrement, puisqu'il y avait la guerre avec le duc de Savoie.
On est en quelle année, là ?
Alors, Pancras, il est né en 1666, donc on est en 1685, 84, 85. C'est la fin du XVIIe siècle. Il va partir à l'armée, il va faire des batailles avec, entre autres, le maréchal Catinat, qui est connu dans la région. Et il va être blessé et être soigné par une infirmière, une aide-soignante, on va dire, à l'hospice de Briançon, et qui va devenir son épouse, Émilienne. Donc voilà, c'est la vie d'une famille, les parents, les enfants, et ça se terminera sur le début du XVIIIe siècle avec la mort de Louis XIV, qui va enfin leur faire espérer qu'il n'y aura plus de guerre, parce que pendant toute cette période, les guerres se sont succédées. Très, très souvent, ça n'arrêtait pas. Quoi.
Et donc, c'est l'histoire pas seulement du Gabelou, alors c'est aussi une histoire de la même famille, mais de plusieurs générations.
Voilà, plusieurs générations, qui se continuera d'ailleurs, puis je suis en train d'écrire la suite avec le petit rejeton de Pancras et d'Émilienne.
Vous repartez sur une trilogie ?
Pour l'instant, il n'y en aura que deux, on verra après, parce que comme ça va se terminer la veille de la Révolution, il y a peut-être quelque chose à faire. Mais c'est trop tôt pour en parler, parce que je ne l'ai même pas dans la tête encore.
D'accord. Est-ce que vous avez forcément dans la tête, par exemple, pour cette première saga que vous aviez réalisée, l'ensemble des livres, ou ça
non.
vient au fur et à mesure ?
Non, c'est venu au fur et à mesure. J'ai écrit le premier, L'oublié de Marie Galante, quand il se termine, après tout un tas d'aventures, qu'il revient dans son village d'Auvergnat. Au moment où il se pose, qu'il va retrouver sa famille, je me suis dit, je ne peux pas arrêter là. Et j'avais déjà 340 ou 350 pages. J'ai dit, je vais faire un deuxième livre sur ce qui va devenir. Et à la fin de ce deuxième livre, qui s'appelle La scie des Amouillots, la scie, hein, ça veut dire scierie, le travail du bois. Et je me suis dit, pareil, je ne peux pas arrêter là. Il y a ces enfants qui ont une vie... Sachant qu'il y a une partie de cette saga qui est inspirée de mon arrière-arrière-grand-père. Donc j'avais un peu quelques anecdotes, des petits points de repère.
Donc il y a toujours un lien dans votre choix de livre avec une expérience personnelle ?
Alors sur cette trilogie dont on vient de parler, oui. Parce que ça part d'une anecdote, l'oublié de Marie Galante. Pourquoi l'oublié de Marie Galante ? Parce que j'entendais dire dans ma famille que mon arrière-arrière-grand-père avait été oublié en Guadeloupe pendant son service militaire. C'était pas du tout le cas. En fait, la loi militaire avait changé. Pour le Gabelou des Colombines, non, je crois pas qu'il y ait un lien, si ce n'est mon amour de la région.
Plus géographique, alors.
Oui, le terme est bien trouvé, c'est géographique.
Et donc c'est un livre que vous êtes amené, enfin un livre, une histoire que vous êtes amené à poursuivre, vous disiez. Comment vous travaillez concrètement sur la création ? Donc il y a les personnages, et puis comment ficelle une histoire finalement ?
Alors techniquement, il s'agit de faire un tableau, de façon à avoir les personnages, parce que je ne peux pas dire à la page 10 que la personne est blonde aux yeux bleus, et puis à la page 300, elle revient dans l'histoire, et puis elle est devenue brune aux yeux marrons. Donc il faut bien, parce qu'on ne s'en rappelle plus, au bout de plusieurs mois, si c'est des personnages qui viennent de façon épisodique. Et puis pour que le lecteur ne se perde pas non plus, donc je fais un tableau de chacun des personnages. Sa description, sa date de naissance, son évolution, c'est assez bref. Et puis je fais un deuxième tableau qui est le déroulement de mon histoire. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que j'écris, pour une, deux, trois pages à peu près, je fais une ligne, c'est pas un tableau Excel parce que je suis sur Mac, mais c'est un tableau Numbers. Je fais une ligne de la page temps à la page temps, je raconte avec tel personnage dans un tel lieu, je raconte ça. Ça me permet de revenir dessus lorsque je suis plus loin dans l'histoire, sinon on se perd.
C'est très effectivement précis et technique. Il y a
c'est obligé, parce qu'en plus de ça, moi je suis quelqu'un de très distrait, donc je serais vraiment capable de leur changer la couleur de cheveux sans qu'ils l'aient voulu.
Et comment vous avez mis en place ces techniques ? On vous les a transmises ? Vous les avez développées tout seul ?
Je les ai développées, je les ai inventées. Quand j'ai commencé à faire mes premières boulettes, j'ai compris qu'il fallait que je m'organise.
Et votre éditeur, vous travaillez donc avec les éditions du Maupassant. Comment s'est fait cette collaboration ? Puisque tous vos livres, sauf le premier, si je ne me trompe pas, ont été publiés via cette édition.
Le premier a été publié par un éditeur qui a racheté ma maison d'édition lorsque j'ai décidé de m'en séparer. Donc j'étais dans la logique des choses. Quoi. C'est lui qui a édité L'Enfant des 60s. Les trois autres, j'ai rencontré cette éditrice sur un salon du livre. Et j'ai vu les livres qu'elle publiait, j'ai vu le succès qu'ils avaient. C'était surtout du terroir et des livres basés sur la région. La région qui n'est pas forcément la région lyonnaise d'ailleurs, la preuve. Mais voilà, c'est parti comme ça. Et comme je suis quelqu'un de très fidèle, tous les autres derrière ont suivi avec la même éditrice.
D'accord, vous avez suivi cette maison-là. Alors ce livre, vous le diffusez comment? On le trouve où?
Alors, on le trouve dans toutes les librairies de France et de Navarre, j'ose dire, pour utiliser une formule bateau. Dans toutes les librairies, à condition de le commander, parce qu'il est diffusé par un diffuseur national qui s'appelle Pollen, Cédif Pollen exactement, mais qui ne diffuse pas dans toutes les librairies, qui ne les met pas en place dans toutes les librairies. Il y a beaucoup de librairies qui sont envahies de livres et qui ne les prennent pas. Mais par contre, ils ont la possibilité de les commander.
D'accord. Donc pour les commander, il faut demander Le Gabelou des Colombines aux éditions du Maupassant, donc écrit par vous, Alain Faucoux. Et vous faites parfois des dédicaces, on peut vous retrouver quelque part.
Alors où trouver le livre déjà à Briançon? On le trouve à la Maison de la Presse rue Centrale et à la librairie de la Gargouille. Je vais faire d'ailleurs une dédicace d'abord à Servières samedi prochain lors du vide-grenier. Je vais être tout seul pour présenter mon livre. Donc s'il y a des Briançonnais qui ont envie de me rencontrer, ils peuvent monter jusqu'à Servières. Je fais une dédicace le 15 août lors de la braderie à la Maison de la Presse. Et le 17 août, le dimanche 17 août, à la librairie de la Gargouille.
D'accord.
Ça, c'est pour les Briançonnais.
Et ailleurs en France, vous allez tourner?
Alors, non, pas en France, parce que les coûts de déplacement dépassent de très largement les revenus qu'on peut en espérer. Parce que vous savez, je voudrais quand même préciser que quand on est romancier, comme je me prétends, et on ne fait pas ça pour gagner de l'argent, parce que, bon, je vais dire que ça paye à peine, heureusement que je ne fume pas, parce que ça payerait juste les cigarettes.
Et donc, pour l'instant, c'est sur ce territoire-là, parce que vous avez écrit sur ce territoire-là.
Parce que c'est ce territoire qui est concerné. Il faudra voir si je ne peux pas l'étendre un petit peu sur Embrun, sur Gap, pour l'élargir dans le département, mais pour l'instant, il n'y a rien de prévu. C'est parce que c'est un territoire qui abrite mes personnages, et puis parce que surtout, j'y suis pendant tout l'été, quoi.
Oui, donc ça fait sens.
Ça aide.
Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y aura un mot que vous aimeriez dire à vos futurs lecteurs et lectrices sur ce livre?
Eh bien, je pourrais leur dire que s'ils aiment la région autant que moi, je l'aime, ils vont y découvrir les preuves de cet amour, la façon dont vivaient les gens avant dans cette région, une histoire qui les embarque. On m'a dit il n'y a pas longtemps, c'est un livre qu'on a du mal à poser parce qu'on a toujours envie de suivre les personnages, savoir ce qui va leur arriver, parce qu'il en a arrivé des belles et des vertes et des pas mûres. Et voilà, j'ai envie de leur dire s'ils aiment les histoires qui ne sont pas prises de tête, mais qui sont vraiment des témoignages par la vie des gens, de ces personnages inventés, fictifs, ils vont passer du bon temps.
Et qui aiment aussi l'histoire.
Et qui aiment l'histoire, parce que, bien sûr... Alors, je fais attention de ne pas trop m'attarder sur la partie historique. Par exemple, là, il y a la guerre des Hobsbawm. Ça n'intéresse pas forcément les gens de savoir toutes les batailles qu'il y a eu à la guerre d'Hobsbawm, d'autant plus que c'est une guerre qui s'est répandue sur la France entière, mais qui était partie d'un peu de nos frontières, là. Donc j'ai fait attention pour ne pas lasser le lecteur de rester dans l'histoire, la petite histoire avec un petit H.
D'accord.
Parce que la grande histoire, ça peut vite être lassant. Tout le monde n'est pas passionné par la grande histoire.
Donc un livre en tout cas agréable pour l'été finalement, puisqu'on est en plein été.
Ah, complètement.
Et comment est-ce qu'on peut vous suivre vos avancées? Est-ce que... voilà, il y a un moyen sur Internet ou ailleurs
de... Alors, lorsque je fais une dédicace et que je vends un livre, ou que je dédicace un livre à une personne, à un lecteur, je demande l'adresse mail. Et chaque fois qu'il y a une nouveauté chez moi, par exemple la suite éventuelle, j'envoie un mail à tous les lecteurs, tous ceux qui m'ont lu et qui me connaissent, par la lecture. Sinon, il faut s'adresser aux éditions du Maupassant, à Villeurbanne. On trouve ça n'importe où sur Internet en tapant...
Éditions du Maupassant.
Éditions du Maupassant.
Eh bien, merci Alain Faucoux. Vous vouliez rajouter quelque chose ?
Ben, je crois que j'ai dit à peu près tout ce qui me venait à l'esprit.
Très bien. Eh bien, dans ce cas, il va être temps de clôturer cette émission. Donc, quand même, on rappelle le titre « Le Gabelou des Colombines », publié aux éditions du Maupassant. Les liens seront mis sur le site internet de Fréquence Mistral avec le replay de cette émission.
Merci.
Une dernière musique, peut-être, pour finir, que vous avez choisi, Johnny Hallyday, « L'envie ». Pourquoi ?
Oui. Ah ben, parce que l'envie, c'est un mot magnifique. Que peut-on faire dans le monde, dans notre vie, si on n'a pas l'envie ? C'est une vie trop triste. L'envie, c'est ce qui permet de dépasser les douleurs, qui permet de dépasser les difficultés, qui permet de faire les grandes choses. L'envie d'avoir envie, comme chante Johnny Hallyday, c'est pire que ça. C'est même, ça veut dire que si on n'a pas envie, on est malheureux. Il faut avoir l'envie de faire les choses.
Vous êtes très positif, Alain Faucoux.
Ah, je suis très positif, oui.
Eh bien, on se quitte sur l'envie de Johnny Hallyday. Merci à vous, Alain Faucoux, d'être venu à notre micro.
Merci Marion de votre accueil très sympathique.
Et merci auditeurs et auditrices pour votre écoute. À très bientôt, une belle journée à vous.
On me donne l'obscurité, puis la lumière. On me donne la faim, la soif, puis un festin. On m'enlève ce qui est vain et secondaire. Je retrouve le prix de la vie, enfin. On me donne la peine que j'aime dormir. On me donne le froid pour que j'aime la flamme. Pour que j'aime ma terre, qu'on me donne l'exil et qu'on m'enferme un an pour rêver à des femmes. On m'a trop donné bien avant l'envie. J'ai oublié les rêves et les merci. Toutes ces choses qui avaient un prix, qui font l'envie de vivre et le désir et le plaisir aussi. J'aime l'amour, la solitude aussi, pour que j'aime les gens, pour que j'aime le silence, qu'on me fasse des discours et toucher la misère, pour respecter l'argent, pour que j'aime être sain, vaincre la maladie, qu'on me donne la nuit, pour que j'aime le jour, on me donne le jour. J'aime la nuit pour que j'aime aujourd'hui.